Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bienvenue à tous si vous nous retrouvez en direct dans la tranche Europe Soir. Dans quelques secondes, le journal. Voilà, je suis un peu troublé parce qu'on parlait juste avant le début de du direct. Et à 19h20, le grand débat du Club des Idées. Ce soir, plongé dans les coulisses de Wikipédia, la célèbre encyclopédie en ligne, fête ses 20 ans. Et c'est l'un des sites les plus consultés au monde, parfois accusé, vous le verrez, d'orienter le savoir universel. Vous comprendrez pourquoi. On en parlera donc avec nos invités. Celle qui me trouble depuis tout à l'heure, c'est Isabelle Millet, qu'on retrouve évidemment pour le journal. Il est 19h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1. Bienvenue à tous.
Quand on dit « on aimerait voir notre père », on vous répond, et je dois le dire, c'est vrai, non, c'est non.
À la une ce soir, ce non si douloureux qui n'a pas permis à la comédienne Stéphanie Bataille d'être présente aux côtés de son père mourant à l'hôpital où il avait contracté le Covid.
Aujourd'hui, elle se bat pour qu'aucune famille ne subisse plus jamais ce manque d'humanité.
Au sommaire également, Sanofi qui confirme ce soir une info qu'Europe 1 avait été la première à vous donner. Le laboratoire français va aider Pfizer et BioNTech à produire leur vaccin contre le Covid.
Aux Pays-Bas, une poignée d'antilles couvre-feu se livre depuis plusieurs jours à des dégradations. Didier François nous dira qui se cache derrière ces manifestations.
En France, pacifiquement, eux, les enseignants dans la rue ce mardi pour demander davantage de moyens et dénoncer la gestion de la crise sanitaire. Et puis la dernière ligne droite pour les concurrents du Vendée Globe. Demain, à 7h06, Corinne Boulot devrait commencer à percevoir le bout de leur mât au large des Sables-d'Olonne.
On a hâte. La météo avec Anissa, trois départements en vigilance orange.
Oui, ça se passe dans le nord-est, entre les Ardennes et le plateau de Langres. Attention au verglas et à la neige cette nuit et tôt demain matin. Les conditions de circulation risquent d'être très difficiles. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est une femme qui se bat pour la mémoire de son père, mais aussi pour toutes les familles endeuillées par le Covid, la comédienne Stéphanie Bataille.
Oui, elle n'a pas eu le droit de dire adieu à ce père, décédé au début du mois à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, après avoir attrapé donc le Covid à l'hôpital où il était entré pour toute autre chose.
Et à la mi-journée sur Europe 1, elle a expliqué à Patrick Cohen pourquoi elle avait décidé de prendre la parole.
J'ai vu un établissement où il manque du personnel, où il n'y a pas de gel hydroalcoolique à l'entrée. Il n'y a pas, le ménage n'est pas assez bien fait. Évidemment, c'est très important de parler de ça. Mais moi, je voudrais être le témoin de ces milliers de gens qui sont partis de façon indigne, avec des familles qui sont dévastées. Je ne veux plus que ça existe. Je serai la porte-parole jusqu'au bout. Je veux qu'il y ait de la dignité. Attraper déjà la Covid à l'hôpital, c'est quand même fou.
Que se passe-t-il quand on apprend que votre père est positif au Covid ?
Il a été placé en unité Covid, formidablement reçu par des médecins, mais avec une direction au-dessus, avec interdiction d'aller voir les patients qui ont la Covid. Quand on dit « on aimerait voir notre père », on vous répond, et je dois le dire, c'est vrai, « non ». C'est non. Ça n'existe nulle part. On a réussi à rentrer en contact avec lui, mon frère, ma mère et moi. Et grâce à un écran qui appartient à l'hôpital. Et là, il nous demandait « faites-moi sortir, je vais crever ». Comment c'est possible ? Mon père est parti en martyr. Évidemment, c'est pour lui que je me bats, pour sa mémoire.
Et en vous réclamant, en réclamant ses enfants.
Ah mais bien sûr.
Oui, le témoignage absolument bouleversant de la comédienne Stéphanie Bataille, qui était donc l'invitée de Patrick Cohen à la mi-journée sur notre antenne.
Alors on a eu envie de comprendre comment il était possible aujourd'hui de vivre des choses aussi douloureuses, aussi bien pour les patients que pour les familles. Ces scènes étaient malheureusement courantes lors de la première vague, mais on découvrait alors un virus inconnu, les hôpitaux étaient débordés. On pensait pourtant qu'on en avait tiré les enseignements.
Oui, Jean-Gabriel Bourgeois a joint le professeur Djilali Annane, le chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, en banlieue parisienne. Il lui a demandé s'il y avait des consignes au niveau national pour interdire ces visites.
Il n'y a pas de disposition nationale qui interdise que les patients atteints de Covid-19 ne puissent recevoir la visite de leur famille. Il y a un an, lorsque la pandémie a commencé en France, effectivement, les visites aux patients, en particulier en réanimation, étaient strictement interdites à tous les membres de la famille. On sait maintenant que cela a été une erreur. Et donc, aujourd'hui, et depuis maintenant plusieurs mois, les visites sont autorisées, bien évidemment, voire même encouragées dans mon service, car on sait que ces visites des familles à leurs proches hospitalisés en réanimation sont importantes à la fois pour les familles et à la fois pour le patient.
Djilali Annane, le chef du service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, joint pour Europe 1 par Jean-Gabriel Bourgeois. Et on précise que l'APHP s'est donc engagé à répondre à la famille de Stéphanie Bataille.
Et alors qu'un nouveau confinement n'est toujours pas d'actualité, en tout cas pas dans l'immédiat, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a fait une mise au point ce matin sur les vaccins.
Oui, vous savez qu'il était envisagé de rallonger le délai entre la première et la seconde injection du vaccin Pfizer-BioNTech. Eh bien finalement, ce ne sera pas le cas par mesure de sécurité, a dit donc Olivier Véran, le ministre de la Santé.
Il ne doit pas y avoir plus de 3 ou 4 semaines entre les deux. Et puis, je vous le disais dans les titres, on a par ailleurs ce soir la confirmation d'une information qu'Europe 1 avait été la première à vous révéler dès le 7 janvier. Bonsoir Emmanuel Duteil.
Bonsoir.
Sanofi va bien prêter ses usines pour produire les vaccins aujourd'hui disponibles sur le marché. La direction de l'entreprise vient à l'instant de le confirmer.
Oui, et c'est historique hein, dans ce monde très concurrentiel de la pharmacie. Concrètement, Sanofi va mettre à disposition de Pfizer-BioNTech son usine de Francfort en Allemagne. Alors, je suis sûr que vous dites, mais pourquoi donc cette usine en Allemagne ? Parce que tout simplement, elle est à côté du siège de BioNTech, qui est une biotech allemande. La production va débuter au mois de juillet. Sanofi devrait pouvoir fournir plus de 100 millions de doses d'ici à la fin de l'année. Ces doses seront destinées à l'Union européenne et donc en partie à la France. La direction de Sanofi, avec qui j'étais ce soir, le reconnaît. Face à une telle crise, on doit le faire. On ne doit pas avoir de regrets. En effet, le vaccin de Sanofi a du retard. La direction vise une mise sur le marché, si tout va bien, au dernier trimestre de cette année. Oui, on aura 5 mois de retard, mais on peut aussi dire que l'on aura 4 ans d'avance par rapport au temps normal pour produire un tel vaccin. On est en tout cas très confiant dans notre vaccin, précise ce soir Paul Hudson. Pour le patron monde de Sanofi, le vaccin français pourrait être plus efficace contre les mutations du virus.
Emmanuel Duteil, chef du service Écho d'Europe 1.
Et à ne pas rater justement demain, soirée spéciale dans Europe Soir avec le patron France de Sanofi. Il sera notre invité pour un grand entretien vérité, Olivier Beaugilot, à partir de 19h15. Les Pays-Bas à nouveau en proie à des émeutes pour dénoncer le couvre-feu, 3e nuit consécutive. Hier, plusieurs centaines de manifestants ont affronté les forces de l'ordre et se sont livrés à des pillages et des dégradations de bâtiments publics.
400 arrestations, dont 150 au cours des dernières 24 heures. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Le Premier ministre hollandais reconnaît que ce sont les pires émeutes connues par son pays depuis 40 ans.
Oui, un déchaînement de rage extrêmement impressionnant, très violent, avec des vitrines brisées dans toutes les grandes villes et les grands centres urbains. Amsterdam, Rotterdam, La Haye, il y a la gare de Eindhoven qui a été totalement dévastée. Des policiers qui ont été menacés avec des couteaux par les pilleurs et les vandales. Mais surtout, cette vague de violence n'a pas seulement touché les métropoles, puisque un hôpital a été attaqué dans une bourgade qui s'appelle Enschede sur la frontière allemande. Et on a même vu des casseurs s'attaquer à un centre de dépistage qu'ils ont totalement saccagé avant d'y mettre le feu dans une petite ville qui s'appelle Urk. Et ça, c'est inquiétant parce que, évidemment, ce mouvement reste quand même très minoritaire. Les Hollandais soutiennent majoritairement les mesures de protection sanitaire du gouvernement, mais les dégradations ont touché l'ensemble du pays, jusque dans ces régions les plus rurales qui sont habituellement épargnées par ce type d'éruption protestataire.
Oui, un pays qui n'a pas l'habitude d'ailleurs de ces flambées de violence. Alors, est-ce que l'on sait qui a participé à ces émeutes ? Quel est le profil de ces émeutiers ?
Oui, figurez-vous, c'est un assez étrange amalgame qui agrège différents courants de protestation autour justement du rejet du confinement. Les plus radicaux, ce sont les mouvements religieux conservateurs protestants qui estiment que la loi de Dieu est plus importante que la loi des hommes. Ils sont en général aussi anti-vaccins. Et ce sont eux qui ont attaqué par exemple le centre de dépistage à Urk. On a d'ailleurs observé des relations équivalentes en violence ce week-end dans les quartiers orthodoxes juifs à Jérusalem, en Israël. Ensuite, il y a les partis d'extrême droite qui font campagne contre le Premier ministre sortant, un libéral, parce qu'il va y avoir des élections aux Pays-Bas en mars prochain et qu'ils veulent capitaliser sur le ras-le-bol général face à la population. Ça aussi, on le retrouve un peu partout, en Allemagne, au Danemark ou aux États-Unis. Et puis, il y a les jeunes mécontents qui estiment être les laissés pour compte, les premières victimes des mesures de lutte contre un virus qui vise à protéger les plus vulnérables et donc les plus âgés. On voit ce mouvement qui prend de l'ampleur au Liban, par exemple, ou en Italie. En fait, tout ça est assez révélateur d'une certaine lassitude dans les populations qui sont soumises aux impacts de la pandémie depuis plus d'un an, ce qui complique quand même singulièrement la tâche des autorités.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs, vous le savez, dans le journal de 19h. L'affaire Olivier Duhamel maintenant. Victor Kouchner a donc porté plainte contre son beau-père.
Dans le livre Familia Grande, que sa sœur jumelle, c'est dans ce livre que sa sœur jumelle Camille avait révélé les agressions sexuelles dont il avait été victime dans son enfance de la part du politologue. Et puis aux États-Unis, l'affaire Harvey Weinstein qui rebondit. L'ancien producteur a conclu un accord financier avec 37 des 45 victimes présumées. L'ancien magnat d'Hollywood va donc dépenser 17 millions de dollars pour que ces plaignantes abandonnent leur poursuite judiciaire à son encontre. Les 8 autres femmes qui n'ont pas accepté cet accord vont poursuivre Harvey Weinstein.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous dans un instant, on vous parle des enseignants qui étaient dans la rue aujourd'hui.
Et puis les héros du Vendée Globe qui finalement auront droit quand même à une aide d'honneur à leur arrivée au Sable d'Olonne.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 19h11, on parle de la colère enseignante, crise sanitaire, mal gérée, profs mal payés. Ce sont quelques-uns des slogans que l'on a pu entendre aujourd'hui dans les rues de plusieurs villes de France.
Oui, quelques milliers de personnels de l'éducation nationale rejoints par les infirmiers scolaires et parfois par des lycéens et même des étudiants ont manifesté pour dénoncer donc leurs conditions de travail dans cette période troublée. Stéphane Place, vous leur avez tendu le micro Europe 1 dans les rues de Bordeaux.
Oui, dans le cortège aujourd'hui, c'est de reconnaissance, de revalorisation dont parlaient ces enseignants qui, s'ils ne réclament pas uniquement des augmentations, estiment toutefois qu'elles sont légitimes, en particulier dans la période que l'on traverse. C'est en tout cas ce que défend Nicolas, professeur des écoles en Gironde.
Les enseignants, ils ont été au front aussi pendant le premier confinement, pendant le deuxième confinement aussi. On reçoit des courriers pendant les week-ends, on est H24, et puis il y a bien de l'argent aussi pour les entreprises, pourquoi il n'y en aurait pas pour les fonctionnaires? C'est pas compliqué, bac plus 5, 20 ans de carrière, 2000 euros, 2100 euros, après impôts, net.
Un peu plus loin dans la manifestation, Stéphanie, elle enseigne l'anglais dans un collège des Landes.
Si on est là aujourd'hui, c'est pour les salaires, mais pas que, c'est avant tout pour les gamins. On est essentiel, tout comme les soignants, les policiers et bien d'autres métiers. On a besoin de nous, mais on peut voir tous les graphiques de l'OCDE, notre salaire est misérable.
Et d'ailleurs, insiste Olivier, professeur de mathématiques à Bordeaux, de meilleures conditions de travail, c'est favoriser la réussite des élèves.
Il y a une surcharge d'effectifs, puisqu'on passe quand même régulièrement à 32, voire 33 élèves dans chaque classe, ce qui dégrade considérablement l'ambiance de travail pour les élèves. Hein. Les élèves ont les masques, il y a des protocoles qui sont mis en place, mais en dehors du protocole sanitaire, de toute façon, dans une classe de 35 mètres carrés à 32 ou 33 élèves, de toute façon, ce ne sont pas de votre.
Garantir la qualité du service public et donc l'égalité des chances, c'est ce qu'ont martelé ces enseignants.
Le reportage signé Stéphane Place à Bordeaux. Direction maintenant les Sables d'Olonne, où notre envoyée spéciale Corinne Boulou a déjà installé sa longue vue et scrute l'horizon.
Et oui, car cette fois c'est une question d'heures, 24 heures ou un peu plus, avant l'arrivée du sprint final du Vendée Globe qui s'annonce plus haletant que jamais, Corinne. Hein.
Oui, ici on sent que le dénouement approche dans un vent tempétueux qui s'est levé. Dans un peu plus de 24 heures, le premier monocoque en effet devrait montrer le bout de son nez au large des Sables d'Olonne. Alors au dernier pointage ce soir, Charlie Dalin conserve l'avantage sur Boris Herrmann à 150 km derrière lui. Plus au nord, Louis Burton est à 230 km, suivi par Thomas Ruyant et Yannick Bestaven. Après 36 jours aux commandes de la course, Charlie Dalin multiplie les manœuvres en ce moment le long du Cap Finistère, à la pointe de l'Espagne, avant de plonger dans le golfe de Gascogne pour rejoindre la Vendée. Interrogé par le PC Course, il reconnaît être trop concentré sur cette folle fin de course pour penser à sa dernière nuit en mer.
C'est tellement longtemps que je suis en mer que j'ai oublié que la vie à terre existait vraiment. Hein. Et voilà, ma norme, c'est être sur Apivia, c'est être sur mon bateau. Et j'arrive pas du tout, mais du tout, à me dire que l'arrivée est imminente. Je suis vraiment extrêmement concentré sur les heures qui viennent, là, sur tous les obstacles qui me restent à franchir. Et voilà, c'est un peu mon état d'esprit du moment.
Charlie Dalin est bien parti pour franchir le premier la ligne d'arrivée. Il est lancé aussi dans un contre-la-montre hein, pour éviter que les bonifications accordées à Boris Herrmann et Yannick Bestaven pour le sauvetage de Kevin Escoffier ne viennent contrarier son projet de gagner le Vendée Globe. Il doit mettre Boris Herrmann à plus de 6 heures derrière lui et Yannick Bestaven à plus de 10 heures et 15 minutes pour pouvoir s'imposer en temps réel et en temps compensé. Il va falloir donc sortir les calculettes aux arrivées demain soir.
Merci Corinne Boulou en direct des Sables d'Olonne pour Europe 1. Et finalement, 300 bénévoles seront autorisés apparemment à former une aide d'honneur le long du chenal lors de l'arrivée des concurrents. Ça ne sera pas comme les milliers de personnes qu'il y a habituellement, mais ça devrait quand même leur faire du bien au moral.
Un peu de chaleur après plus de 2 mois passés en mer, ça n'est pas rien. Merci Isabelle, on vous retrouve évidemment demain pour le 18-20 Europe Soir. La météo avec un temps qui se dégrade demain, Anissa.
Oui, nous avons une perturbation qui va arroser quasiment toute la France. Le ciel sera gris pour tout le monde, sauf le bord de la Méditerranée et la Corse. Et puis notez cette info, nous avons trois départements placés en vigilance orange, neige, verglas demain matin. Il s'agit des Ardennes, de la Meuse et de la Haute-Marne. Les conditions de circulation seront très difficiles dans ces départements. Les températures négatives encore demain matin avec moins 5 à 2 degrés à l'est, 3 à 10 degrés sur l'ensemble du pays. Et demain après-midi, ça se radoucit nettement, 5 à 18, 5 degrés à Belfort, 11 à Paris et 18 pour Perpignan.
11 à Paris.
Ouais, c'est doux, hein, c'est doux, ça grimpe. Hein.
Ouais, oui, carrément. Merci, chère Anissa.
À demain.
À demain. Vous restez avec nous, 19h15, dans quelques secondes, notre grand débat sur Wikipédia, dont on va vous révéler les secrets. Vous allez voir, c'est absolument passionnant. D'abord, la carte blanche, signée ce soir, Anne-Rose Ancher.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide.
C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Anne-Rose Ancher.
Bonsoir Julien.
Directrice adjointe de la rédaction de l'Express. Alors ce soir, ma chère Anne, vous nous parlez d'une figure célèbre d'Europe 1, Coluche, qui a d'ailleurs lancé à ce micro les Restos du Cœur. Coluche qui avait senti, dites-vous, avant l'heure, la société d'aujourd'hui.
Oui, c'est l'histoire d'un mec qui est mort voilà près de 35 ans, mais qui est toujours dans l'air du temps. Je crois, Julien, qu'il y a en France une sorte de rémanence Coluche. On a pu l'observer notamment lors de la première phase des Gilets jaunes, quand le mouvement représentait encore quelque chose comme une tranche de la société française. Sur les ronds-points et sur les pages Facebook aux milliers d'abonnés, l'humoriste à salopette était la figure tutélaire qui revenait inlassablement en photo et en citation.
Mais pourquoi lui en particulier ?
Oh, pour diverses raisons sans doute, mais une m'apparaît évidente en relisant certains de ses sketchs et de ses interviews, c'est que Coluche a saisi dès les années 80 ce qui allait devenir le sentiment de beaucoup de Français vis-à-vis du pouvoir institutionnel, c'est-à-dire le scepticisme face au système politique et à son impuissance qui conduit aujourd'hui au désarrimage d'une grande partie des citoyens vis-à-vis de la chose publique. Ils voudraient qu'on soit intelligent, mais ils nous prennent pour des cons, comment qu'on ferait alors ? C'est l'une des saillies de Coluche qui résume le mieux, je pense, sa disposition d'esprit. Sous le langage populo, l'humoriste a fixé un regard sur ce qu'on pourrait appeler notre mélancolie démocratique.
C'est tout à fait juste ce que vous dites, Anne. Alors Coluche serait un héros, un porte-parole d'une certaine manière de la France périphérique avant l'heure ?
Oui, alors c'est plus complexe que cela, bien sûr, parce que le personnage avait plusieurs facettes, dont une libertaire qui cadre assez mal avec cette France-là. Mais il y a quelque chose qui convient à beaucoup de nos concitoyens dans la projection que leur offre la figure de Coluche. Comprenez ? Il n'est pas Jean-Marie Bigard. Ce dernier a une audience humoristique que je nie pas, mais penser qu'il représente la France populaire et qu'il pourrait y faire un carton électoral avec son discours politique grimaçant et très premier degré, c'est un peu prolophobe à mon sens.
Oui.
Il ne faut pas idéaliser le peuple, comme certains le font parfois, mais il ne faut pas non plus l'insulter dans les représentations que l'on en donne. On les dit bigards, certains répondent non, Coluche.
Alors cela dit, Michel Colucci, de son vrai nom, n'était pas apprécié que dans les classes populaires, loin de là à l'époque.
Oui, et cela ajoute à la nostalgie. À l'époque, Coluche faisait la jonction entre la France d'en bas et la gauche culturelle, entre le populo, l'esprit canal et Bourdieu, pour le dire vite. Cette singularité, on la voit particulièrement bien dans le numéro que le magazine Légende consacre ce trimestre à l'humoriste. Aujourd'hui, une telle unanimité est quasiment impossible. La fracture sociale ne cesse de se creuser dans notre géographie, dans les urnes et dans la culture. Et les figures qui réussissent à être populaires dans tous les îlots de notre archipel sont en voie de disparition. Mais bon, ne désespérons pas, et comme disait Coluche lui-même, française, française, cette année c'était très bien, l'année prochaine, ça sera pire.
C'est vrai que cette saison, merci Anne-Rose Ancher, j'ajoute pour vous, amis auditeurs, que Christophe Ondelatte reviendra à 14h dans son émission Ondelatte raconte, justement, sur la naissance des Restos du Cœur, à ce micro d'Europe 1, par Coluche. Merci Anne.
Merci.
Europe 1, Julien Bugier.
Restez avec nous, 19h19. Comme promis, dans quelques secondes, on vous plonge dans les coulisses de Wikipédia. Vous pensez tout savoir ? Eh bien, détrompez-vous, vous allez comprendre tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le grand débat du Club des Idées à 19h22, on vous raconte la folle histoire de Wikipédia. L'encyclopédie en ligne fête ses 20 ans. C'était le 15 janvier 2001. Une curieuse plateforme apparaît en ligne à une époque où le dictionnaire est encore roi. Et c'est vrai qu'au moment de sa création, peu de monde y croyait. Alors Wikipédia a-t-il achevé nos bonnes vieilles encyclopédies ? Comment être sûr de ce qu'on y lit ? On va vous en raconter ce soir les coulisses et les secrets. On en parle avec nos invités. Rémi Mathis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, ancien président de Wikimedia France. Vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce Wikimedia. Et puis vous êtes auteur d'un formidable ouvrage, Wikipédia, dans les coulisses de la plus grande encyclopédie du monde aux éditions First. Bonsoir Marie-Noëlle Doutrex.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en sciences de l'information direction et de la communication à l'université Lyon 2 et auteur également d'un ouvrage remarqué qui s'appelle Wikipédia et l'actualité aux éditions Paris-Sorbonne Nouvelle. Alors Wikipédia est apparu, je le disais, il y a tout juste 20 ans et à l'époque, voici comment Europe 1, on en parlait.
Il a vraiment voulu nous montrer que tout le monde pouvait mettre ce qu'il voulait sur Wikipédia et que c'était pas un site sûr. Pareil, les corriger sur Internet, c'était des corrigés vite fait, juste pour gagner de l'argent.
J'avais repris en fait quasiment telle quelle la phrase de Wikipédia. Mais maintenant, je sais qu'à chaque fois que j'y vais, je me dis, est-ce que c'est vrai ?
Voilà, c'est pas le bon son, mais on va le retrouver. Voici donc à l'époque, le 11 septembre 2001, comment on en parle.
On l'apprend à l'instant, un avion de tourisme s'est écrasé cet après-midi dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York, l'une des plus hautes tours de Manhattan.
Alors décidément ce soir on a un petit problème de sonore, mais c'est pas grave, on va vous raconter comment on en parlait à l'époque. Eh bien à l'époque, personne n'y croyait, mon cher Régis Mathis. Vous allez comprendre pourquoi on vous avait préparé ce son tout à l'heure du 11 septembre 2001, au moment évidemment du crash des deux avions dans les tours du World Trade Center. D'abord, qui a créé Wikipédia, Rémi Mathis?
Alors Wikipédia a été créé par quelqu'un qui s'appelle Jimmy Wales, qui est une personne qui, dans la bulle de l'Internet du début des années 2000, a décidé de lancer une encyclopédie. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début, l'encyclopédie n'était pas du tout censée être comme Wikipédia. C'était vraiment une encyclopédie traditionnelle. Simplement, on s'est rendu compte que ça progressait trop lentement et ils se sont dit, on va créer une espèce d'incubateur où on va faire des articles qui seront ce qu'ils seront, mais qui vont peut-être intéresser certaines personnes.
Alors, j'ai lu qu'à l'époque, les premiers articles concernent... C'est intéressant parce que ça raconte aussi les centres d'intérêt des contributeurs. Ça concerne la Bible ou encore le groupe de musique. Alors là, beaucoup plus surprenant, des Backstreet Boys. Marie-Noël Dutrex.
Oui, alors les sujets se sont considérablement diversifiés dans Wikipédia. Bien sûr, à la base, ils sont peut-être plus représentatifs de ceux qui écrivent, des contributeurs. Depuis, heureusement, l'encyclopédie s'est beaucoup diversifiée. Il y a plus de 2 millions d'articles sur la Wikipédia francophone. Donc voilà, on a dépassé ce
évidemment,
type de thématique.
Évidemment. Alors j'ai lu que Wiki, ça signifie « rapide ». En hawaïen, et c'est pour ça que les deux créateurs ont choisi ce nom un peu farfelu, qui peut paraître un peu bizarre quand on n'en connaît pas l'origine, Wikipédia, et qu'ils se sont inspirés d'un moteur de recherche lancé en 95 qui s'intitulait WikiWikiWeb. C'est vrai ça, Rémi Mathis ?
Alors oui, ce qu'on appelle un wiki, c'est surtout un site internet où n'importe qui peut aller faire des modifications, c'est-à-dire qu'il n'est pas bloqué comme un site internet normal, et donc c'est ce qui est à la base...
Voilà, comme je ne suis pas geek, il y avait une explication qui me manquait dans ce choix de Wikipédia.
Voilà, donc ça, c'est ce qui explique que Wikipédia puisse amener n'importe qui à faire des modifications sur ses pages. C'est juste un type de site internet qui en effet a été créé en 1995 et qui a débloqué le fonctionnement de Wikipédia.
Bon, voilà pour la petite histoire. Aujourd'hui, la grande histoire, c'est que Wikipédia est un phénomène, rassemble 434 millions de pages, 55 millions d'articles et le tout en 316 langues, donc c'est vraiment mondial. Et chaque mois à travers le monde, 22 milliards de pages sont consultées. En France, ce sont approximativement, dites-moi si je me trompe, Marie-Noël Dutrex, ce sont entre 500 et 700 millions de pages qui sont lues chaque mois et alimentées donc par des contributeurs. Alors ça, il va falloir m'expliquer qui sont ces contributeurs qui alimentent quotidiennement ou de façon hebdomadaire les pages Wikipédia.
Alors, les contributeurs, en théorie, ça peut être n'importe qui. Tout le monde peut modifier les pages de Wikipédia. Après, la Fondation Wikimedia fait des études pour savoir qui sont vraiment les contributeurs. Et très majoritairement, ce sont plutôt des hommes blancs qui contribuent à Wikipédia, ce qui pose problème parce que Wikipédia cherche à avoir une certaine diversité de points de vue. Oui. Et plus le profil sociologique des contributeurs est diversifié, et plus il y a de chances de réussir à avoir justement cette diversité de points de vue.
Alors vous allez un petit peu vite en besogne, parce que j'avais prévu d'en parler de ça, mais un peu plus tard, sur les critiques aussi qui émergent avec le profil de ces contributeurs, c'est vrai qu'ils se ressemblent tous un petit peu, on va en parler. Je voudrais d'abord simplement comprendre le fonctionnement pour tous les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent et qui lisent peut-être Wikipédia, comme beaucoup de Français tous les jours, mais qui n'ont pas conscience de qui apporte ce savoir sur les pages de l'encyclopédie en ligne, Rémi Mathis. Qui sont ces contributeurs et comment ça marche? Comment être sûr que ce qui est écrit est vrai?
Alors, il y a plusieurs questions dans ce que vous dites. Qui sont les contributeurs? En réalité, c'est souvent des gens qui sont passionnés par leur sujet, c'est-à-dire souvent, en réalité, des gens qui sont assez connaisseurs de ce sur quoi ils écrivent.
Oui.
Mais c'est pourtant pas central. Ce qui est important, c'est d'une part que sur Wikipédia, tout est public, donc tout est relu par d'autres contributeurs, ce qui permet de s'assurer qu'il n'y a pas de grosses bêtises. Et d'autre part, ce qui est également très important, c'est que Wikipédia, c'est vraiment une synthèse. Donc les contributeurs n'apportent rien par eux-mêmes. Ils se contentent de faire une synthèse de sources par ailleurs publiées et qu'il faut citer pour montrer que c'est bien ça qu'on sait sur ce sujet.
Il n'y a jamais de bêtises sur Wikipédia, ça c'est
bien
sûr.
Bien sûr que si.
Ah, si, il y a des bêtises. Bon, vous allez nous expliquer alors comment on fait pour démêler le vrai du faux et qui sont ceux qui sont les garants aussi du savoir et de la vérité hein, de ces millions de pages qui sont quotidiennement alimentées sur Wikipédia. On marque une première pause et on se retrouve avec nos invités. On a encore plein de choses à vous apprendre. Vous allez voir. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, passé de 1 minute ce soir dans le grand débat du Club des Idées. On s'intéresse donc à l'encyclopédie en ligne Wikipédia qui fête ses 20 ans. C'était le 15 janvier 2001. On vous raconte la folle histoire de cette aventure qui est aujourd'hui, c'est vrai, l'un des sites les plus consultés en France, au même titre que Facebook, au même titre que YouTube, au même titre que d'autres. Hein. Dans le top 5, je crois, c'est ça, Rémi Mathis, vous êtes historien, ancien président de Wikimedia France. Dans le top 5 des sites les plus consultés de France, Wikipédia
c'est ça, c'est
aujourd'hui
à peu près le 4 ou le 5e site le plus consulté, mais aussi le premier non commercial et le premier culturel.
Alors, j'évoquais tout à l'heure la fiabilité de Wikipédia. Comment être sûr de ce qu'on y lit? J'ai lu que les fondateurs et le contrôle de ce conseil du savoir, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut les appeler ainsi, ces médiateurs qui suivent tout ce qui est mis en ligne sur l'encyclopédie en ligne Wikipédia?
Alors, on les appelle souvent des patrouilleurs,
des
personnes qui vont regarder systématiquement tout ce qui se passe, cibler un petit peu les contributions qui sont un petit peu bizarres, celles qui retirent du texte, celles qui retirent des sources, celles qui sont faites par des personnes qui n'ont pas de compte.
Mais combien ils sont ces patrouilleurs? Parce que pour lire et suivre toutes les informations qui sont modifiées à un instant T, il faut être des milliers, j'imagine.
Alors, quelques centaines à quelques milliers. Des personnes qui font plus de 100 contributions par mois, il y en a environ 1000 sur la Wikipédia
francophone. Ce sont des bénévoles.
Ce sont des bénévoles qui font ça pour leur plaisir.
Ces contributeurs sont des contributeurs qui deviennent des patrouilleurs.
Tout à fait.
Et comment on est sûr que ces patrouilleurs, à un moment, ils jouent le jeu de la réalité et qu'ils soient totalement objectifs par rapport aux infos qui sont déposées sur la plateforme?
On n'en est jamais sûr, mais le principe, c'est qu'ils sont plusieurs centaines et que donc chacun va regarder ce que fait les autres et finalement, chacun se tient un petit peu par la barbichette à s'assurer que chacun travaille bien.
Marie-Noëlle Doutrex, vous avez publié cet ouvrage, Wikipédia et l'actualité. On peut être sûr de ce qu'on lit sur Wikipédia aujourd'hui?
Alors, la qualité des articles est assez inégale en fonction des sujets. Mais ce que mes recherches ont montré, c'est
que
finalement...
Parce que c'est devenu la référence quand même. Hein.
Oui. Mais en fait, plus les articles vont être consultés, où il va y avoir de contributions sur ces articles, et plus il y a de chances que finalement, ils correspondent aux standards de Wikipédia. Et qu'ils aient, par exemple, le label « Bon article » ou « Article de qualité », qui est une reconnaissance donnée par la communauté envers certains articles particulièrement travaillés. Donc, il y a des signes quand même dans Wikipédia qui permettent de voir si un article est plus ou moins travaillé, si on peut s'y fier ou non.
Alors, il y a un événement important qui a été un coup d'accélérateur aussi pour le développement de Wikipédia. C'est pour ça qu'on s'est un peu emmêlé les pinceaux tout à l'heure. C'est cet événement, le 11 septembre 2001.
On l'apprend à l'instant, un avion de tourisme s'est écrasé cet après-midi dans la partie supérieure de l'une des deux tours du World Trade Center à New York, l'une des plus hautes tours de Manhattan.
Voilà le choc, la sidération mondiale, le 11 septembre 2001, les avions s'écrasent dans les tours du World Trade Center. Pourquoi, Marie-Noëlle Doutrex, ça a été un élément accélérateur du développement de Wikipédia?
Alors, ça a été un événement d'actualité extrêmement important. Et ce qui est intéressant, c'est que cette encyclopédie, enfin Wikipédia, s'est démarquée des encyclopédies traditionnelles, particulièrement à ce moment-là, puisqu'elle a réussi à prendre en compte l'actualité qui était en train de se faire et d'écrire par rapport à cet événement en cours.
C'est la première fois, j'ai lu ça en préparant cette émission, c'est la première fois qu'on peut suivre, comme vous le disiez, l'actualité sur tout un tas de sujets que les contributeurs alimentent au fur et à mesure de l'événement. C'est-à-dire qu'on commence par écrire des pages et des pages sur les architectes des tours du World Trade Center, sur les compagnies aériennes, sur le terrorisme, sur les mouvements terroristes, et ensuite, évidemment, sur tous les conflits qui s'en sont suivis. Ça, c'est inédit. Et c'est un peu ce qui s'est passé, d'ailleurs, si j'en crois ce que j'ai lu, un peu plus tard avec les printemps arabes, par exemple.
Alors oui, il y a un attrait de la communauté wikipédienne envers l'actualité qui est assez fort. Néanmoins, cet attrait pour l'actualité, il pose question aussi avec quelles sources on construit ces articles. Et parce qu'il n'y a pas de source universitaire sur des événements qui sont en cours. Oui. Alors, on va devoir s'appuyer sur les médias, mais les médias, ils n'ont pas non plus toujours les bonnes informations au moment où l'événement se passe. Donc, il y a tout un circuit comme ça de l'information qui pose question pour finalement aboutir à un article fiable, de qualité, sur un événement sur lequel on n'a pas un recul encyclopédique.
Vous connaissiez cette histoire, Rémi Matisse, le premier événement documenté en direct sur Wikipédia, c'est le 11 septembre 2001.
Alors, je n'avais pas suivi celui-ci en particulier, mais ça ne m'étonne pas et ça fait vraiment partie des débats au sein de la communauté, de quelle manière traiter ces questions d'actualité. Est-ce qu'il faut attendre d'avoir du recul ou pas? C'est vraiment les grands enjeux.
Alors, il y a un invité mystère qui est avec nous par téléphone, qui est philosophe. Bonsoir, Milad Wehi.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. C'est vrai qu'on avait aussi envie de vous entendre, ou vous, homme de lettres, homme de culture, sur votre rapport à Wikipédia. Est-ce que Wikipédia permet, selon vous, un accès, par exemple, plus facile au savoir et à la culture ?
Ah, il n'y a aucun doute. Aujourd'hui, c'est évident que Wikipédia est la plateforme culturelle la plus importante presque dans toutes les langues. Il est vrai que, malgré ce point de vue, je suis un grand supporteur. On peut avoir quelques, comment dire, points pas nécessairement très critiques, mais quand même d'interrogations vis-à-vis de la structuration de la manière dont les articles sont mis en place dans Wikipédia. Et du coup, effectivement, au-delà des sujets de l'actualité qui ont évolué, quand vous venez de l'évoquer depuis 2001, oui. Moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est à la fois, Rémi vient de le dire, que Wikipédia présente toujours une synthèse du savoir et que les contributeurs anonymes donnent pas nécessairement du nouveau. Et là, je conteste un petit peu, mais on avait discuté dans le passé avec Rémi, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, dans la manière de présenter, dans la structuration de la plateforme et sa présence globale, quand même, cette présentation a des effets prescriptifs extrêmement puissants, que ce soit dans les domaines techniques ou scientifiques, et puis après, le domaine qui m'intéresse davantage.
Mais vous faites confiance en tant que philosophe, écrivain, penseur, à Wikipédia, c'est une source d'information fiable selon vous ?
Pour les domaines scientifiques et techniques, absolument. Oui. Pour les domaines qui sont en sciences humaines, j'ai beaucoup plus de difficultés et de réticences. Parce qu'il me semble que le modèle qui a été adopté par Wikipédia pour valider et qualifier un article ne correspond pas à la nature de l'interprétation qui est particulière ou spécifique à certains domaines en sciences humaines et parfois en sciences sociales. Oui. C'est-à-dire à la fois, il y a un certain effet de consensus qui devient absolutiste et qui suscite des problèmes. Mais pour le dire très très vite, si vous voulez, quant à moi, le consensus n'est pas désirable dans le domaine des sciences humaines.
Oui.
Alors que dans le domaine scientifique ou technique, en tout cas, pour un premier accès à certaines formes de savoir, c'est essentiel. Je crois qu'il y a un clivage, un écart entre les domaines qui peut se voir. Il suffit de comparer des articles sur Diderot, sur Pascal, en français, en anglais, en allemand, et on voit tout de suite que la qualité et le modèle a du mal, quant à moi.
Alors, très intéressant ce que vous dites. On va continuer d'en parler. Vous restez avec nous, parce qu'il y a aussi des polémiques derrière ce succès incroyable et ce phénomène Wikipédia. On en parle juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on continue donc ce soir dans le grand débat du Club des Idées de vous raconter la folle aventure de Wikipédia, l'encyclopédie qui fête ses 20 ans. Encyclopédie évidemment en ligne, devenue un incroyable succès partout dans le monde. Alors on est toujours avec Rémi Matisse qui est historien et ancien président de Wikimedia France. Alors j'avais promis qu'on expliquerait qu'est-ce que c'est Wikimedia France.
Alors c'est une des structures qui existent autour de Wikipédia, puisque sur Wikipédia n'importe qui peut participer, c'est juste un lieu où on va écrire une encyclopédie. Il y a en revanche deux grands types de structures. La Wikimedia Foundation internationale, qui est l'hébergeur, donc qui gère ce qui est technique et juridique. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle des chapitres, dont Wikimedia France, qui fonctionne par pays, qui en gros font l'interface avec la société, qui vont signer des partenariats, expliquer ce qui se passe, répondre aux médias, etc.
Et chercher de l'argent, ça gagne de l'argent Wikipédia ou pas ?
Alors ça ne gagne pas d'argent, c'est bien ça le problème, mais ça a besoin d'argent. C'est-à-dire que Wikipédia est entièrement...
C'est pour ça que quand on va régulièrement sur la page, on est appelé à une petite contribution pour participer au financement.
Son modèle économique repose sur une levée de fonds, de même que c'est écrit par une infinité d'internautes, c'est financé par une infinité d'internautes.
Donc vous êtes en train de me dire que son fondateur, Jimmy Walls, dont on parlait tout à l'heure, est un type absolument incroyable qui a créé un succès mondial avec cette encyclopédie, et il n'est pas millionnaire, il n'a pas gagné plein d'argent, cet homme-là ?
Il doit faire quelques conférences ici et là, mais ce n'est pas par Wikipédia.
Ce n'est pas Zuckerberg.
Ce n'est pas Zuckerberg, bien sûr.
Alors, on parlait tout à l'heure du profil type des Wikipédiens. Vous en parliez notamment, Marie-Noëlle Doutrex. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et vous avez publié un ouvrage sur Wikipédia et l'actualité. C'est vrai que les recherches montrent que ces contributeurs, ce sont plutôt des profils blancs, intellectuels de centre-gauche, et qu'en France, la majorité de ses contributeurs a au moins Bac plus 7 et sont à 87% des hommes. Et ça, vous l'évoquiez en début de débat, ça pose question car ça nous oriente vers une construction et un savoir un peu biaisé, avec un prisme défini. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Alors, qu'ils ont majoritairement Bac plus 7, je ne suis pas sûre, mais que ce sont des hommes tout à fait des hommes blancs à presque à 90%, c'est le cas. Ça pose particulièrement problème dans la mesure où Wikipédia fonctionne par communauté de langue. C'est-à-dire que la Wikipédia en français, c'est la Wikipédia aussi pour les internautes des pays francophones, oui, en Europe et ailleurs. Et donc, il faut qu'ils puissent eux aussi être représentés dans l'encyclopédie. Or, c'est très majoritairement des Français en plus qui écrivent les articles de la Wikipédia.
On va peut-être citer des exemples pour que chacun comprenne. Ça veut dire qu'il y a des angles morts en fait dans l'encyclopédie Wikipédia. Par exemple, on parle assez peu des pays en développement. On parle assez peu des femmes célèbres. J'ai vu qu'il y avait un déficit énorme sur les portraits, les histoires des femmes célèbres. Comment on l'explique ça ? C'est dû au profil des contributeurs ?
Oui, tout à fait. C'est lié en partie au fait qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de contributrices que de contributeurs sur Wikipédia, ce qui est un problème. Mais c'est lié aussi au
Donc
fait
les
que...
les hommes parlent des hommes, quoi, grosso modo. C'est ce que vous nous dites.
Oui, en partie. Mais c'est aussi lié au fait que, de manière générale, les femmes scientifiques ou artistes sont beaucoup moins reconnues. Et donc, il y a moins de publications sur elles. Et comme Wikipédia s'appuie sur des publications, des sources extérieures pour justifier l'intérêt d'un article...
des travaux de recherche,
c'est un reflet de notre
société. De la culture de notre société. Rémi Mathy, sur cette histoire de profil, c'est vrai que on n'y pense pas forcément quand on va sur Wikipédia très spontanément, mais il y a un prisme.
Alors, il y a forcément un prisme. Après, il faut quand même préciser qu'il y a beaucoup plus d'articles sur les femmes ou sur les pays en voie de développement sur Wikipédia que dans n'importe quelle encyclopédie. Et il y en a moins que sur des sujets européens.
Non, mais proportionnellement à l'ensemble des articles qui sont publiés, c'est ça le sujet.
C'est ça. Après, il y a forcément un prisme, mais l'idée même d'encyclopédie est une idée, en fait, européenne. C'est une idée des Lumières, et ça pose quand même un certain nombre de problèmes vis-à-vis de ce qui est acceptable comme source. En effet, on aimerait bien écrire notamment sur des traditions africaines, mais est-ce qu'il y a des sources écrites ? Si oui, ça passe souvent par des publications européennes et il y a un côté colonialiste problématique. Sinon, de quelle manière intégrer ça alors qu'il n'y a pas de source, alors qu'on est sur un modèle européen qui demande de l'écrit ? C'est un problème en fait social et de notre société, bien avant d'être celui de Wikipédia
alors,
en particulier.
Oui, c'est le reflet de la société finalement, c'est ce que vous dites. Alors il y a un autre sujet qui est régulièrement avancé, c'est le bouleversement du savoir et du milieu éducatif dû à Wikipédia, et on en vient à notre deuxième extrait qu'on a passé tout à l'heure et qu'on a écouté. Courté parce qu'il n'arrivait pas au bon moment. Dans un lycée de Paris, un professeur a tendu un piège à ses élèves, constatant qu'ils utilisaient très souvent les mêmes formules et commentaires dans leurs devoirs. Alors il a posté des analyses sur des forums et a proposé un corrigé complet de dissertation sur Internet. Les trois quarts de ses élèves se sont fait prendre. Écoutez leur réaction.
Il a vraiment voulu nous montrer que tout le monde pouvait mettre ce qu'il voulait sur Wikipédia et que c'était pas un site sûr. Pareil, les corrigés sur Internet, c'était des corrigés vite fait, juste pour gagner de l'argent.
J'avais repris en fait quasiment telle quelle la phrase de Wikipédia. Mais maintenant, je sais qu'à chaque fois que j'y vais, je me dis, est-ce que c'est vrai ?
Ça vous fait réagir, ça, Milad Ouaoui ? Vous êtes toujours avec nous, philosophe ?
Oui, je suis toujours avec vous. C'est devenu un lieu commun, mais en même temps, moi, je trouve que ça pose aucun problème parce qu'en fait, les étudiants apprennent avec Wikipédia. Moi, quand j'avais enseigné même à Paris 4, à la Sorbonne, j'avais encouragé mes élèves à utiliser, même à copier pour essayer d'approfondir. Après, reproduire
mais
tel quel...
C'est quand même l'écueil, c'est quand même l'écueil de la génération copier-coller. Ça pose question quand même, plutôt que d'aller chercher une information dans une encyclopédie, dans une œuvre, dans une revue.
Ah, je suis pas sûr parce que je crois que on essaie d'appliquer des critères à la pratique des jeunes de soi-disant de la culture coller-copier pour essayer de la mettre comme si elle ne fait que reproduire. Et moi, dans mon expérience, c'est pas le cas. Évidemment, il va toujours avoir un pourcentage qui va en faire du simple coller-copier, mais dans la majorité des cas, en tout cas dans mon expérience personnelle en enseignant à la fois en France et aux États-Unis, c'est tout à fait l'inverse. Ça ouvre la voie vers des formes de recherche, vers une mise en question question de la validité, de la fiabilité de certains renvois et références. Et là, on trouve les bénéfices de cette remarquable plateforme.
Rémi Mathis, est-ce que Wikipédia va finir d'achever nos bons vieux dictionnaires, nos bonnes vieilles encyclopédies ?
Je dirais que les encyclopédies papier ont déjà un petit peu du plomb dans l'aile, d'abord à cause d'elles-mêmes sous forme numérique. Plus personne ne veut des livres papier parce que ce n'est pas pratique d'avoir 20 volumes dans sa
salle à manger. Moi, je trouve qu'il y a toujours une noblesse à feuilleter les pages.
C'est très joli. Pour faire un décor, c'est parfait, mais c'est quand même beaucoup moins pratique que de chercher en plein texte. Et après, en effet, les encyclopédies traditionnelles ont cherché des nouveaux modèles économiques parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont des entreprises.
Oui.
Et du coup, elles se sont généralement tournées vers le monde de l'éducation avec d'autres problèmes, en particulier de financement qui sont des vrais problèmes.
Faut un pas dernier mot sur ce même thème, Marie-Noël Doutrex.
Oui, l'encyclopédie universalisme, je recommande à mes étudiants d'y aller, mais en fait, elle coûte très très cher aux universités. Or, le budget des universités ne cesse de baisser.
Wikipédia, forcément, ça coûte moins cher.
Et voilà, et du coup, certaines universités ont arrêté leur abonnement à universalisme parce que c'était trop cher. Et c'est vrai que c'est pas normal que les universités aient à payer très très cher pour avoir accès aux connaissances que leurs propres chercheurs produisent financé par le public. Donc tout ça, c'est un problème dans l'édition scientifique et qui aussi favorise l'utilisation de Wikipédia parce que la gratuité, c'est quand même un point important de son modèle.
Bien, merci pour ces explications, merci pour ces précisions, merci de nous avoir aussi éclairé sur ce que raconte cette épopée Wikipédia. Et vive le savoir.
Merci.
19h48, dans quelques secondes, les archives d'Europe Soir. On vous parlera des tontons flingueurs du foot français. Claude Besse, Bernard Tapie, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec la suite du Club des idées d'Europe Soir, les archives comme chaque soir à 19h50, 3 minutes pour comprendre, ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos.
Voilà. Bonsoir Cyril Delamorinerie.
Bonsoir.
Alors quand vous êtes en studio, on sait qu'on va parler sport avec vous, et football notamment. C'était il y a 22 ans, 26 janvier 99, disparaissait l'un des plus grands dirigeants du foot français, un homme haut en couleur, Claude Besse, président des Girondins de Bordeaux, dont la rivalité avec Bernard Tapie, qui lui fête son anniversaire aujourd'hui, 78 ans, n'a pas d'égal.
Oui, c'était les deux mâles dominants du foot français. Ils ont emmené leur club au sommet. Un vrai duel, un match de président où tous les coups étaient permis. Insultes, intimidations, provocations. Alors, premier acte de cette guerre sans merci en 1986. Peu de temps après son arrivée à la tête de l'OM, le nouveau président olympien vient sonder la grande star des Girondins, Jean Tigana, lors d'un déjeuner organisé en catimini dans le Pays Basque. Claude Besse est mis au courant et explose de rage.
Tapie, c'est un charlatan. Ça fait partie de ces charognards qui vivent grâce aux entreprises en difficulté, avec quelques réussites pour le moment. Mais il ne m'impressionne absolument pas.
Il faut dire que Bernard Tapie est un spécialiste de rachat d'entreprises en difficulté, qu'il redressait après une sévère cure d'austérité. Réplique du nouveau président de l'OM qui menace de l'attaquer devant les tribunaux pour diffamation.
C'est la justice qui décidera ce qu'on doit faire à quelqu'un qui insulte les autres. Et puis voilà, c'est tout. Moi, ça ne m'intéresse plus de savoir comment les gens réagissent sur ce sujet-là.
Ah oui, sacrément électrique entre les deux dirigeants.
D'abord parce que Claude Besse est l'antithèse de Bernard Tapie. Lui est un petit gros moustachu, un notable gascon, expert comptable reconnu, fier de sa région. Et face à lui débarque un banlieusard parisien, jeune entrepreneur à l'américaine. Sûr de lui, un playboy coqueluche des médias qui promet de tout rafler avec l'OM. Et ça, Besse ne le supporte pas. Car à l'époque, c'est Bordeaux qui domine le foot français avec une équipe de rêve. Or tout de suite, Bernard Tapie, avec son côté jeune coq, ne ménage pas son rival bordelais.
Je parle pas de Besse, d'abord on fait pas le même métier, moi je suis président d'un groupe, puis il est employé municipal.
Oh là là, Bernard Tapie qui veut détrôner Bordeaux, ça vole bas quand même, hein. Coup bas. Fait tout pour lui prendre des joueurs et il finit par y arriver.
Oui, le coup de maître de Bernard Tapie, c'est le transfert du milieu de terrain girondin de naissance, monument bordelais, Alain Giresse de Bordeaux à Marseille. Gigi, comme on le surnomme, est la plus grande star du foot français du moment après Michel Platini. Le milieu de terrain formé à Bordeaux annonce à la surprise générale qu'il rejoint le club ennemi.
C'est une équipe de se bâtir, donc au niveau football, tout à faire ou à refaire.
Voilà, furieux, le président des Girondins insulte Giresse et se venge à sa façon lors du retour du prodige à Bordeaux. Claude Besse, le raye du programme du match Bordeaux-OM de 87. Il remplace son nom et sa photo par un point d'interrogation sur la composition des équipes.
Alors pendant 4 ans, le vrai classico n'est pas PSG-OM, mais bien Bordeaux-OM.
Oui, en 87, Bordeaux réalise le doublé Coupe Championnat. La formation de Claude Besse est aussi demi-finaliste de la défunte Coupe des Coupes. 2 ans plus tard, c'est le tournant, c'est Marseille qui s'adjuge le titre et la Coupe de France. Chaque match est un combat, les deux présidents multiplient les provocations. Un soir, en avril 90, Claude Besse débarque au stade Vélodrome dans une Cadillac bleu nuit aux couleurs de son club. Une autre fois, le président président des Girondins prend une décision où il interdit donc aux supporters de l'OM de venir au Parc Lescure encourager leur équipe. Décision donc qui ne fait qu'envenimer les relations déjà très tendues entre supporters marseillais et bordelais.
C'est un scandale, même un gros scandale.
Moi, c'est un taré, il est complètement déchiré. Puis de toute façon, c'est pas ça qui va les faire devenir champions.
Et puis,
puis l'année prochaine, bon, bah, quand ils viendront à Marseille, on fera la bouillabaisse.
Et puis dans les années 90, en attendant la bouillabaisse, les deux tauliers, comme l'on dit, finissent par tomber.
Oui, le premier à rendre son tablier, c'est Claude Bèze. Il faut dire que Bernard Tapie n'a pas hésité à se servir de ses appuis politiques auprès de la Mitterrandi pour demander d'enquêter sur les affaires de Claude Bèze. Le président est condamné par la justice, notamment pour une escroquerie lors de la rénovation du centre d'entraînement du Haillon. Il aurait surfacturé des travaux et privilégié des proches. Claude Bèze finit en prison, comme le raconte le correspondant d'Europe 1 de l'époque, Bernard Abadie, donc à Bordeaux.
Claude Bèze, un père beige, moustache, a écouté le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux imperturbable. 2 ans de prison, dont 1 ferme, audience de 5 minutes, sortie rapide, pas un mot.
Quelques années plus tard, Bernard Tapie passera aussi par la case prison pour la fameuse affaire VAOM en 99. Donc un 26 janvier, Claude Bèze, qui reste une figure très appréciée des supporters de Bordeaux, quitte définitivement la scène.
Claude Bèze, l'ancien homme fort des Girondins de Bordeaux, a été emporté hier par une crise cardiaque à l'âge de 58 ans. À la présidence de ce club, il a marqué de son empreinte le football des années 80.
Et cette rivalité Bèze-Tapie a servi le foot français. Claude Bèze a même été un précurseur alors que la Ligue renégocie actuellement les droits de télé. L'inoubliable président de Bordeaux a été le premier à demander aux télévisions de payer pour diffuser ses matchs.
Vous voyez, je savais bien qu'on parlerait football avec vous. Merci mon cher Cyril, merci
avec plaisir,
à vous
toujours.
Pour ces belles archives. Donc, quelques secondes.
Julien Bugier.
Dans quelques secondes, le rappel de l'info avec Julien Pierce, 19h57, et puis Émilie Mazoyer pour la musique. Salut Émilie.
Salut Julien.
Avec toi, quelque chose me dit qu'on ne va pas parler football.
Non, enfin pas tout de suite. Là, on va plutôt parler musique avec un invité découverte ce soir. Un artiste qui prône la musique optimiste. Ça fera plaisir à tout le monde, je crois. Il s'appelle Rameau. Demain sera superbe. C'est le nom de son nouvel EP sorti vendredi. Évidemment, on y croit.
Ben oui, j'espère qu'il a raison.
J'espère qu'il a raison aussi et qu'il a ouvert un cabinet de voyance. Et voilà, c'est lui qu'on va découvrir ce soir dans musique.
Bon, s'il a des tuyaux, tu nous tiens au courant, Émilie. Merci, à tout de suite. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure, à partir de 18h. À demain.